Alors c'est l'heure pour nous d'accueillir Bruno Denaze. Bonjour Bruno.
Bonjour Benoît Colomba, bonjour à tous.
Alors vous êtes le médiateur de Radio France, les auditeurs de Secret d'Info en ont désormais l'habitude. Chaque mois, vous relayez ici leurs remarques ou leurs critiques sur nos enquêtes. Et nous sommes là pour répondre et pour ce qui concerne nos dernières enquêtes, eh bien il y a un sujet qui a beaucoup fait parler.
Oui, il fallait s'en douter, c'est le retour sur toute l'affaire libyenne et la mise en examen de Nicolas Sarkozy qui a suscité un grand nombre de réactions et de commentaires. Beaucoup d'auditeurs, comme François, ont été satisfaits que vous fassiez un point complet sur une affaire qu'ils qualifient d'embrouillée. Il ajoute « Nous avons entendu une remarquable synthèse où les points de vue de toutes les parties ont été objectivement présentés. » D'autres auditeurs estiment que cette affaire manque de preuves pour Jean-Luc. Comment faire confiance à la parole de trafiquants et d'anciens proches de Kadhafi ?
Alors, c'est une expression qui a également été employée par Nicolas Sarkozy lui-même en parlant de bande de Kadhafi. Alors, je me tourne vers Élodie Guéguin qui suit de près ce dossier à Secret d'Info. Quel crédit accorder à ce type de témoignage, Élodie ?
Eh bien, évidemment, ce sont des témoignages à prendre avec précaution, avec prudence. On peut se dire que ces anciens proches de Kadhafi ont des comptes à régler avec le président qui a décidé de leur mener la guerre en 2011. Mais ce qui est notable, c'est l'accumulation de témoignages qui vont dans le même sens, qui racontent la même chose, le fait que Kadhafi ait donné son accord pour payer la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. Certains anciens dignitaires libyens l'ont raconté, par exemple, devant la Cour pénale internationale. D'autres ont témoigné sous X devant les juges français. Et puis, il y a aussi un témoignage écrit et posthume du ministre du pétrole de Kadhafi, dont on a retrouvé des notes datées de 2007. Et ça, c'est un élément matériel qui embarrasse la défense de Nicolas Sarkozy.
Alors, il y a une autre question toujours sur ce dossier libyen, Bruno.
Oui, il y a Claude, un autre auditeur qui ne comprend pas que l'on mêle ce qu'il appelle les turpitudes de Claude Guéant avec le financement de la campagne présidentielle. Que signifie l'amalgame entre le financement de l'appartement de Guéant, écrit-il, et le financement de la campagne de Sarkozy?
Bon, alors là, il faut rentrer dans le détail de cette affaire. À première vue, effectivement, on peut se demander quel est le lien entre l'achat de l'appartement de Claude Guéant et cette affaire libyenne. Sauf que, Élodie, ce lien, il a été documenté par les enquêteurs.
Oui, ils ont remonté en quelque sorte le fil de l'argent qui a permis à Claude Guéant de s'acheter un appartement en le payant comptant dans les beaux quartiers de Paris. C'était début 2008, alors qu'il était depuis quelques mois le secrétaire général de l'Élysée. Claude Guéant avait reçu un virement de Malaisie, virement de 500 000 euros. Et en bout de chaîne, eh bien, derrière cet argent, les enquêteurs ont identifié un banquier installé à Genève qui gérait aussi le principal fonds d'investissement libyen. Il est là le rapport, en clair, des milliards de pétrodollars du régime de Kadhafi gérés par ce banquier. Est-ce une coïncidence? Les juges, en tout cas, ont décidé de mettre Claude Guéant en examen dans le cadre de cette affaire franco-libyenne.
Autre chose là-dessus, Bruno ?
Enfin, une question intéressante, oui, sur vos méthodes de travail. Marie s'étonne d'entendre la retranscription de contenu d'écoute téléphonique. Comment pouvez-vous vous les procurer, demande-t-elle. S'agit-il de fuite ou est-ce légal ?
Bon, alors là, je vais peut-être répondre. D'abord, le principe de base, quand on est journaliste, c'est d'avoir des sources. C'est ensuite, évidemment, de recouper ces informations obtenues auprès de ces sources. L'autre grand principe, c'est le secret des sources. Donc, on ne va pas évidemment rentrer dans tous les détails, mais ce qu'il faut savoir tout de même, c'est que dans une procédure judiciaire, il y a de multiples intervenants. Certains sont tenus au secret de l'instruction, d'autres non. Mais les journalistes, eux, ne sont pas soumis à ce secret de l'instruction. Et s'ils n'ont pas le droit de détenir des pièces d'un dossier judiciaire, eh bien, ils peuvent tout à fait en prendre connaissance et donc ensuite les rendre publics. Voilà, alors donc ça c'était pour le dossier libyen. Mais il y a une autre enquête, Bruno, qui a provoqué un grand nombre de réactions.
Et de commentaires, c'est votre enquête sur le quasi-milliard d'euros versé à tort par Pôle emploi à des chômeurs. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas que l'on puisse réclamer de fortes sommes à des personnes à faible revenu alors que les erreurs viennent de Pôle emploi. D'autres se demandent pourquoi les demandeurs d'emploi qui perçoivent par erreur une somme plus importante que d'habitude ne réagissent pas et attendent qu'on leur réclame un remboursement. C'est tout de même troublant, nous dit Jérôme.
Bon, alors là, je précise que c'est la journaliste Cécile Hautefeuille qui est vraiment une spécialiste du sujet qui a signé cette enquête pour nous. Deux réponses à ça. D'abord, il faut bien comprendre que les sommes trop versées ne sont pas forcément colossales, ce qui n'attire pas forcément l'attention. Ça peut être 40 euros chaque mois. Ces sommes s'accumulent pendant des mois et c'est souvent quand la demande de remboursement du cumul de ces sommes trop versées tombe, ce n'est souvent qu'à ce moment-là que la plupart des gens réalisent vraiment qu'il y a un problème. L'autre point, c'est ce que Cécile Hautefeuille explique très bien dans son enquête. La plupart des bugs concernent les demandeurs d'emploi qui cumulent des allocations avec des petits revenus. Et la grande majorité d'entre eux ignorent comment est calculé leur complément de salaire. Et parfois, ils ne connaissent même pas l'existence de ce dispositif. Donc c'est difficile dans ces conditions de vérifier ce que vous ne connaissez pas. La plupart, en fait, disent faire confiance à Pôle emploi et ils ne vérifient pas forcément si les montants versés sont corrects, même si, bien sûr, clairement, il est conseillé de le faire. Encore faut-il en avoir les moyens.
Alors, il y a Fabrice, un salarié de Pôle emploi, qui vous reproche de n'avoir qu'effleuré le sujet, nous écrit-il. 80% des trop perçus ont pour cause l'absence de déclaration de reprise d'emploi des chômeurs et vous, vous faites 30 minutes sur 1% des cas.
Effleurer le sujet, bon, ça, c'est l'appréciation de Fabrice. Encore une fois, la journaliste qui a fait l'enquête travaille depuis des années sur le sujet. Elle a même écrit un livre sur Pôle emploi. En revanche, le chiffre cité par Fabrice n'est confirmé par aucune de nos sources. Ce que dit l'UNEDIC, qui est donc le gestionnaire de l'assurance chômage, c'est que dans 80% des cas, ces trop perçus interviennent dans une situation de cumul allocation chômage salaire, on l'expliquait à l'instant. Il ne s'agit donc absolument pas de 80% de trop perçus pour cause d'absence de déclaration de reprise d'emploi. J'ajoute que nous n'avons pas fait 30 minutes sur 1% des cas. On sait au contraire concentré sur les dysfonctionnements les plus importants, les plus fréquents, et notamment ceux qui concernent les assistantes maternelles, qui est la profession la plus touchée par ces trop perçus. Une dernière question là-dessus, Bruno ?
Alors enfin, oui, il y a une auditrice, Myriam, qui vous pose une question de vocabulaire pas idiote du tout. Pourquoi parlez-vous toujours et encore de trop perçus ? Or, il s'agit de trop versé. Trop perçus stigmatise les chômeurs alors qu'ils ne sont pour rien dans les erreurs de Pôle emploi. C'est pas tout à fait faux.
Oui, c'est vrai que les mots sont importants. Dans notre enquête, je pense qu'on a vraiment eu le souci d'être au plus près des faits en expliquant qu'il s'agissait de sommes versées à tort aux demandeurs d'emploi qui finalement sont les premières victimes de ces dysfonctionnements puisqu'ils doivent rembourser des sommes importantes, ils se retrouvent dans des situations impossibles. Donc il n'y a évidemment aucune volonté de notre part de stigmatiser qui que ce soit. L'autre élément de réponse, c'est que si nous avons utilisé ce terme de trop perçu, c'est qu'en fait, la grande majorité de nos interlocuteurs utilisent ce terme dans les interviews que nous avons menées. Voilà, on en reste là, Bruno ?
Oui, Benoît, on n'a pas évoqué votre enquête sur le transport aérien militaire et les soupçons de trafic d'influence. Les auditeurs ont beaucoup commenté ces soupçons de fraude, mais là, pas de questions particulières ni de demandes de précision.
Merci, Bruno Denas. On vous retrouve dans un mois. Et en attendant, vous pouvez continuer à envoyer vos commentaires sur le site du Médiateur, médiateur.radiofrance.fr, mais aussi sur franceinter.fr, sur la page Facebook de Secret d'Info ou sur Twitter, Investigation RF. Allez, restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons vous dévoiler les étranges pratiques d'un champion français de la microalgue.